Demain sur France Inter, les forêts tropicales dans la Terre au carré.
14h, Mathieu Vidard.
Elles couvrent un tiers des terres émergées et hébergent à elles seules la moitié des espèces de plantes et d'animaux. Plongées dans les forêts tropicales, ces réservoirs uniques de biodiversité.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement.
Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Et il est 18h17.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20.
Et ce soir, je vous emmène en Slovénie, qui prend demain, 1er juillet, la présidence tournante de l'Union. Drôle de petit pays, dirigé par un Premier ministre qu'on appelle volontiers le maréchal Twitos, qui admire son voisin Viktor Orban. Mais comme souvent, et c'est tant mieux, tout n'est pas si simple, ni si manichéen, et on y vient tout de suite. Le bruit du monde est au Brésil, nous entrerons dans les favelas de Rio. Vous verrez qu'avec beaucoup de bonne volonté et aussi des ONG, on arrive à lutter contre une pandémie galopante en dépit de l'absence de mesures officielle du gouvernement. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Anaïs Feguet a trouvé des prêtres à Cuba. Des mots sévères entre la Pologne et Israël. Et aussi du paludisme vaincu en Chine. 18h50, le cinéma en VO et Corinne Pellissier. On parle de Peter Pan ce soir. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four avec l'Éthiopie qui décidément vacille. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Laurent Assine.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé au laboratoire Pléiade à l'université Paris 13. Vous êtes spécialiste de la Slovénie et des Balkans. Vous avez notamment écrit une géopolitique de la Slovénie chez la Route de la Soie. Je le disais, cette Slovénie qui prend la tête de l'Union, donc à partir de demain et pour 6 mois. Tout petit pays qu'on a tendance à oublier, en fait, à pas vraiment savoir où il est, coincé entre le nord de l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie. On va rappeler quand même qu'en 91, c'est la toute première république à avoir fait sécession avec la Yougoslavie en devenant un État souverain et indépendant, présidé, pour que le tableau soit compié, par un Premier ministre qui s'appelle Janez Janša, qui est un drôle de personnage, Laurent Assis, dont on le qualifie de misogyne et de climato-sceptique. Il essuie des manifestations chaque vendredi avec marqué « Stop au dictateur », qualifié parfois de mini-Orban ou mini-Trump parce qu'il adore tweeter. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, et surtout, c'est qui cet homme? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
C'est un homme qui est connu en Slovénie depuis fort longtemps, depuis la fin des années 80. Il avait participé à un mouvement d'opposition très fort pour lequel il avait été arrêté du temps de la Yougoslavie. Il était même emprisonné. L'armée yougoslave l'avait soupçonné avec 3 autres journalistes d'avoir trouvé des informations comme quoi il y aurait un coup d'état militaire à ce moment-là. Et il a continué sur une pente conservatrice à partir de l'indépendance. Il était ministre de la Défense il y a 30 ans au moment de l'indépendance. Donc il apparaît aussi comme le défenseur de la nation slovène au sens, et de l'État au sens propre. C'est un homme qui est plein de paradoxes. Il était journaliste à la fin des années 80 d'extrême gauche, maoïste. Et il est depuis, même maintenant, quand même une bonne vingtaine d'années faisant partie de la droite la plus conservatrice.
Donc on l'appelle populiste, nationaliste, on l'appelle comment d'ailleurs? Comment on le qualifie?
On peut utiliser tous ces termes, après il faudrait rentrer dans les détails des appellations. Il appartient, disons, à la droite conservatrice, mais à la même où il était déjà Premier ministre en 2008 lors de la présidence slovène de l'Union européenne et où il faisait partie du PPE.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce qu'effectivement, vous le disiez, il a été, ça a été une sorte de héros en fait de l'indépendance de la Slovénie. Il a eu un premier mandat et puis un deuxième en 2012. Il y a eu entre-temps de la prison pour corruption, retour en 2020. Comment on fait pour faire un virage entre être un maoïste et aujourd'hui une sorte de national populiste? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce monsieur?
Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Par contre, ce qui est certain, c'est que probablement que l'objectif qu'il cherche, c'est avant tout à rester au pouvoir, à le garder. Sur les 30 années de l'indépendance, il n'était que 6 années au pouvoir. Pour une personnalité qui est majeure de la politique slovène, c'est probablement à l'heure actuelle le seul véritable politique en Slovénie. C'est finalement assez peu. Et c'est lié au mode de scrutin en Slovénie qui repose sur la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que les coalitions gouvernementales sont assez fragiles depuis une dizaine d'années. Il y a eu, entre 1991 et 2004 en Slovénie, une période où la gauche slovène, le parti de centre-gauche, était au pouvoir. Il y a eu la première alternance politique en 2004 où Janša a gagné les élections législatives. Il les a perdues en 2008 où la gauche est revenue au pouvoir. Mmh. Et à partir de 2011, il y a eu des élections législatives anticipées. Et depuis 10 ans, la Slovénie a organisé 3 élections législatives anticipées et avec une instabilité qui a été de pair avec la remise en cause d'un sentiment pro-européen qui existait en Slovénie jusqu'au début des années 2010. Il n'y avait pas de parti hostile à la construction européenne actuelle en Slovénie jusqu'au début des années 2010. Et ce premier parti est venu de la gauche, de l'extrême gauche, Levica, qui est qui a fait après, qui a popularisé ce discours de suspicion vis-à-vis des élites européennes.
Et du coup, est-ce qu'on le classe dans les eurosceptiques ? Est-ce qu'il est quand même attaché à l'Europe ? L'est-il à la manière de Viktor Orban, puisqu'on va forcément en parler, son très encombrant voisin, c'est-à-dire qui est à la fois qui fleure l'euroscepticisme et qui a en même temps tellement besoin de l'Europe et des fonds européens. Il se situe comment, Janez Janša?
C'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'en 2008, il était résolument pro-européen. Aujourd'hui, il s'oppose à la construction européenne actuelle, comme d'ailleurs, vous l'avez mentionné, Viktor Orban, qui est peut-être son modèle politique au sens où Orban est au pouvoir depuis 10 ans. Et probablement que par mimétisme, il voit bien que le modèle peut fonctionner dans des sociétés qui sont nationalistes, conservatrices, avec... La Slovénie n'est pas que nationaliste et conservatrice, mais il y a un terreau qui est assez marqué. Et il pense que la meilleure stratégie pour lui, pour rester au pouvoir, c'est probablement d'aller dans cette voie-là.
Mmh. Qu'est-ce qui le sépare ? Alors, on comprend bien ce qui peut le rapprocher, en fait, là-dessus de la Hongrie de Viktor Orban. Qu'est-ce qui les sépare cependant ? Ou est-ce que c'est les mêmes, mais lui est plus petit, tellement plus petit, puisqu'il y a 2 millions d'habitants en Slovénie, ce qui pèse évidemment nettement moins lourd ?
Il y a un mimétisme qui est évident. Par exemple, Orban était il y a quelques jours à Ljubljana pour célébrer le 30e anniversaire de l'indépendance slovène. Il a pris la parole et il est très souvent au meeting du SDS, le parti de Janša, et on les voit très souvent ensemble. Ce qui les sépare, c'est peut-être l'histoire récente, c'est-à-dire que la Slovénie est le seul, bon avec la Croatie, mais le seul pays de l'Union européenne qui ne faisait pas partie du pacte de Varsovie, donc qui était affilié aux soviétiques et qui est rentré dans l'Union européenne. Et donc, les Slovènes sont plus orientés vers l'ouest que les Hongrois. Mmh. Il y a 1 heure de route entre Trieste et Ljubljana. Il y a 1 heure de route pour aller en Autriche. La société slovène peut être très libérale. Et il y a une opposition très marquée entre les villes, qui votent très majoritairement à gauche, et les espaces ruraux, qui sont plus conservateurs, proches de l'Église catholique. Et Janša fait entre 20 et 25% des voix à chaque scrutin. Il a un socle assez marqué, mais il monte pas beaucoup au-dessus, que Orban a peut-être beaucoup plus de soutien dans la population. Janša est un leader par défaut. Mmh. Il est un leader parce que l'opposition, qui est probablement très majoritaire en Slovénie, n'arrive pas à s'organiser pour gagner des élections. La seule fois où c'est arrivé, c'était en 2014, lors d'élections législatives anticipées. Il y a eu un universitaire reconnu qui s'appelait Miro Cerar, qui s'est présenté, qui n'avait pas d'expérience politique. Il a fait 35% des voix. Mais après, comme le système, c'est la proportionnelle intégrale en Slovénie, eh bien, il faut toujours réaliser des coalitions. Il faut rappeler que Janša a gagné les dernières élections législatives. Il les a gagnées et donc il a la légitimité du suffrage universel.
Alors, jusqu'à quel point quand même il inquiète le reste de l'Europe, parce que il a coupé les vivres à la presse, ou en tout cas la presse qui lui plaisait pas, sur les droits LGBT. On peut penser qu'il s'aligne sur une position à la Orban, même si récemment, effectivement, il s'était abstenu, puisqu'il allait prendre la présidence de l'Union européenne. Il a coupé court à une conférence avec les eurodéputés, effectivement, sur le droit de la presse. Il a refusé de nommer deux juges aussi, qui sont censés, deux juges slovènes, à ce fameux parquet luxembourgeois de la lutte contre la corruption. Donc, est-ce qu'on regarde cette présidence en se disant il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu, le monsieur, ou est-ce qu'au contraire, cette présidence-là, c'est aussi pour lui une manière de, je ne sais pas, est-ce qu'il met de l'eau dans son vin, est-ce qu'il montre qu'il est plus attaché à l'Europe qu'il ne le dit ? Comment il peut gérer ça ?
C'est difficile de répondre à cette question, il faudrait être dans sa tête. Moi, je le vois de la manière suivante. Probablement que Janša va utiliser les 6 prochains mois pour provoquer. Mm-hmm. de manière plus ou moins marquée, mais pour montrer au niveau international qu'il existe. D'ailleurs, vous voyez, ce soir, on organise une émission pas tellement sur la Slovénie, mais sur sa personnalité.
Absolument.
Alors qu'on parle assez rarement de la Slovénie, et c'est très
justifié. Et vous parlez de provocation, je pense à ce tweet Bravache qui doit avoir un jour ou deux et qui dit « Nous ne devons rien à l'Union, nous nous sommes battus pour la liberté, pour la démocratie il y a 30 ans, sous-entendu, on sait faire ça tout seul. Merci. » Donc, et ça, c'est tout neuf aussi, effectivement.
Ouais. Oui, et il ne se situe pas dans un mouvement antidémocratique dans son esprit. Il se situe dans une démocratie spécifique qui est très refermée sur elle-même, très axée sur le rejet des institutions européennes telles qu'elles existent. Mais encore une fois, c'est assez paradoxal, puisque lors de la dernière présidence européenne slovène, il était déjà au pouvoir et il disait tout l'inverse.
Les dossiers qu'il aura à gérer quand même, parce qu'il va effectivement présider cette présidence tournante, sachant qu'après lui c'est nous d'ailleurs, donc il pave la route, on va dire, jusqu'à nous derrière. Il aura à gérer la sortie de la pandémie, il aura à gérer le démarrage du plan de relance, puisque maintenant les budgets plus ou moins ont été acceptés dans chacun des pays européens. Il y en a beaucoup sur ses épaules quand même. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a les épaules pour tenir ce rôle-là réellement?
Déjà sur la pandémie, il avait annoncé la fin de la pandémie en mai 2020 l'année dernière en Slovénie.
Donc, et il a refusé d'acheter des vaccins. Donc c'est quand même un drôle de bonhomme aussi.
Après, il faut aussi rappeler que la présidence de l'Union européenne, ça n'est pas gouverner l'Union européenne. C'est un rôle tout à fait symbolique. Comme d'ailleurs en Slovénie, on l'oublie, mais il y a un président de la République aussi qui a été élu au suffrage universel, qui est de gauche et qui est tout à fait silencieux depuis que Janša a pris le pouvoir. D'ailleurs, en Slovénie, il y a beaucoup d'autocollants un peu partout dans les villes slovènes. On cherche le président parce qu'il ne parle pas. La dernière fois que la Slovénie a présidé l'Union européenne, il y a eu l'indépendance du Kosovo en février 2008. Peut-être que cette fois-ci, la présidence slovène va accélérer le mouvement d'intégration d'un certain nombre d'autres ex-républiques yougoslaves dans l'Union européenne, comme par exemple le Monténégro ou la Macédoine du Nord. Et il y a eu ce qu'on appelait les Balkan Papers au printemps, dont on soupçonne que c'est peut-être lui qui a voulu refaire les frontières de la Yougoslavie.
Pour expliquer aux gens, ces Balkan Papers, c'était une espèce de feuille de route avec tous les pays des Balkans occidentaux, donc Bosnie, Croatie, Albanie, Kosovo, etc. Une espèce de redécoupage de frontières qui donnait une grande Serbie, un grand Kosovo. Enfin, on remettait tout ça dans le shaker. Lui dit, c'est pas moi. C'est ailleurs que ça s'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus réellement? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de cette petite Slovénie de jouer à ce redécoupage-là?
Il y a surtout une volonté de provoquer de sa part. Il voulait dépecer la Bosnie, la partager avec la Croatie et la Serbie, pour faire simple.
Dit dissolution pacifique.
Oui.
Vous vous dites qu'il voulait dépecer.
Oui, bien sûr, mais il y a eu une guerre quand même dans les années 90. Ce serait juste de valider encore un peu plus les nettoyages ethniques après les accords de Dayton. C'est d'autant plus paradoxal, cette proposition, qu'en 2004, il est arrivé au pouvoir après avoir instrumentalisé l'affaire des effacés, qui était le fait d'avoir effacé 25 000 personnes juste après l'indépendance des registres nationaux. Ça a été illégal et secret. Et la Slovénie, en fait, une grande partie des Slovènes ne l'ont appris qu'en 2003. Et c'est en surfant sur cette affaire où la grande majorité était des populations issues des autres ex-républiques yougoslaves, qu'il est parvenu à se montrer en défenseur de la nation slovène et donc à participer. C'était pas la seule raison, mais à gagner les élections.
Jusqu'à quel point ça lui fait gagner des points de le jouer bravage comme ça et d'essayer de provoquer? Je vous pose la question parce que, on le disait tout à l'heure, il y a effectivement une manifestation tous les vendredis qui dit stop à la dictature. Vous nous avez expliqué combien ce pouvoir était fragile. Est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il tombe d'ailleurs avant la fin de sa présidence tournante?
Pas par les manifestations. Les manifestations regroupent quelques centaines de personnes, rarement plus de quelques milliers. Il y en a eu fin mai entre 20 et 40 000, ça c'était assez exceptionnel. Il faudrait qu'il y ait des manifestations beaucoup plus amples pour que la question de sa démission se pose. Le seul moyen où son mandat n'irait pas à son terme, ce serait si la coalition tombait. Mais c'est pas non plus dans l'intérêt des députés du Parlement, parce que si la coalition tombe, il y aurait des élections législatives anticipées, donc ils pourraient aussi perdre leur siège.
Qu'est-ce qu'il dit lui en entrant dans cette présidence? Est-ce qu'il a dit des choses là-dessus d'ailleurs? Est-ce qu'il a donné une idée de la couleur qu'il voulait lui donner? Est-ce qu'il l'a exprimé ou pas? À part ce tweet que je lisais tout à l'heure sur « Nous ne devons rien à l'Union ».
Janša tweet beaucoup, il tweet plusieurs fois, parfois plusieurs dizaines de fois par jour.
Marshall Tweetos.
Trump à côté est un petit joueur.
C'est vrai à ce point-là? Sérieusement?
À ce point-là.
Oh là là.
Et il y a beaucoup de tweets, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, qui ne sont pas toujours très, très exprimé de manière diplomatique.
Est-ce que, je vous posais la question tout à l'heure, réellement, est-ce qu'on le scrute de près? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il a y gagné d'avoir une présidence et 6 mois tranquille, Yangsa?
Non.
Ou est-ce qu'au fond, au contraire, il a plutôt tout à y perdre s'il a 6 mois tranquille? En termes électoralistes.
Son intérêt, c'est d'être dans une forme de provocation. Le tout, c'est de savoir quelle amplitude pour à la fois se positionner en vue des législatives de l'année prochaine à l'échelon national et aussi de montrer qu'il existe à l'échelon international parce que finalement, il reste assez peu connu en dehors des frontières de la Slovénie. Et c'est évidemment lié à la taille de l'État, mais c'est quand même aussi un homme politique qui, depuis 30 ans, joue un rôle majeur dans la politique slovène et qui avait participé à sa manière aussi à la fin de la Yougoslavie.
Si on mettait sur le tapis pendant les 6 mois à venir, ce sera peut-être le cas, le fameux article 7 autour de la Hongrie, puisqu'on l'a remis sur le tapis après les histoires très récentes autour de la loi anti-LGBT. Qu'est-ce qu'elle dit, la Slovénie, dans ce genre de situation-là?
Bon, tout ce que fait la Slovénie en ce moment s'aligne sur les positions de la Hongrie, soit par le silence, soit par l'adhésion directe. Il y a un mouvement qui est en train de se dessiner en Europe centrale qui mettait souvent la Pologne et la Hongrie ensemble. Et peut-être qu'un des objectifs de Janša, c'est d'y associer la Slovénie. Mais c'est le gouvernement Janša, ça n'est pas représentatif de la Slovénie dans son, dans son ensemble, parce que Janša ne représente qu'un quart des voix au maximum en Slovénie. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même trois quarts sur un taux de participation qui est en baisse continue, comme chez nous depuis 20 ans. Dans le livre que vous mentionnez tout à l'heure, je montre bien justement que on a perdu plus de 40 points de participation entre les débuts des années 90 et aujourd'hui, et qu'il y a une grande défiance des Slovènes vis-à-vis de la politique, un peu comme on le retrouve dans les autres démocraties occidentales. Et paradoxalement, peut-être que le pouvoir de Janša à l'heure actuelle, qui se retrouve aussi dans d'autres pays, tant au niveau de sa... de niveau de participation, mais aussi au niveau qui soit ce que vous appelez un populiste, montre que la Slovénie a bien achevé sa démocratisation.
Le livre que vous mentionniez s'appelle « Une géopolitique de la Slovénie ». Laurent Acide, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir en grande partie ce tout petit pays. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci de votre passage dans la journée.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe au Brésil. Vous verrez comment à Rio, dans les favelas, on peut lutter contre le Covid malgré la promiscuité en dépit surtout de la politique de Bolsonaro. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Anaïs Feuga.
Eh bien, il n'y a pas que le Covid. La Chine a officiellement éradiqué le paludisme après 70 ans de lutte, plus un seul cas depuis 4 ans.
Le cinéma en VO. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir. On revisite le mythe de Peter Pan dans une fable écolo.
Le monde d'après. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir à tous. En Éthiopie, les rebelles sécessionnistes du Tigré contre-attaquent et le pays s'enfonce dans la guerre civile. C'est inquiétant pour toute la région.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Voici Faye Webster. I'm not funny. Ah ah, c'est le titre, je vous promets. Let's sit around and drink some sake. And we can argue about the same things. Talk about neighbors on the front. Right now we both wanna be rock stars. bruit du monde ce soir est au Brésil, dans un des plus grands complexes de favelas de Rio, les favelas de la Marais, où vivent près de 140 000 habitants. Ici, on teste gratuitement les gens, alors qu'ailleurs, ça coûte près de 50 euros. On accompagne les habitants dans leur isolement et ils peuvent rester chez eux sans travailler. Monté par des ONG, bien sûr, ce projet contre le Covid, implanté depuis près d'un an, est financé par les dons, mais aussi par de l'argent public. Il est la preuve que le Covid peut être mieux contrôlé, y compris dans les zones les plus pauvres et les plus peuplées, alors qu'en réalité, vous le savez, le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde en nombre de morts, avec zéro mesure ou presque de la part de Jair Bolsonaro. Le reste, c'est Anne Vigna qui raconte.
Il est 10h du matin et Priscilla, une feuille à la main, vérifie sa liste de distribution.
Josefa, c'est pour nous. Ah, on a deux Josefa alors. Allez, on y va et on s'occupe de la dernière.
Priscilla et André préparent leur cagette de repas chaud. Nous sommes à La Marais, un complexe de 16 favelas à Rio, parmi les plus grands du Brésil, où le Covid a été particulièrement meurtrier. Pour contrer cette réalité, deux ONG et un centre de recherche médicale se sont associés au sein d'un projet dénommé Connexion Santé. Le premier pilier de ce projet est de permettre aux habitants de s'isoler lorsqu'ils sont atteints du Covid. C'est justement la tâche de Priscilla et André, apporter deux fois par jour des repas chauds aux malades.
Bonjour, comment va-t-elle aujourd'hui ?
Ça va.
Ah super, elle ne sent plus rien ?
Non, elle n'a plus de symptômes.
Ah génial, un bon rétablissement à elle. Que Dieu vous garde et à demain.
Quelques rues plus loin, Carole observe la tournée de Priscilla et la salue chaleureusement. Elle a bénéficié de ce programme il y a quelques mois avec son mari.
Quand on a eu le Covid, on a eu des consultations médicales online parce qu'on a dû rester en isolement 14 et 15 jours. Et pendant tout ce temps, ils nous ont apporté des aliments et un kit d'hygiène. Je les vois souvent ici et dans tous ceux qui ont le Covid. Je ne peux que demander à Dieu que ce projet continue parce que les gens en ont vraiment besoin.
Porque de verdade tem muita gente que precisa.
Le projet Connexion Santé a mis en évidence le besoin d'aide pour s'isoler dans les quartiers pauvres, alors que le gouvernement Bolsonaro n'offre qu'une allocation totalement insuffisante. Le projet ne donne pas d'argent, mais un accompagnement complet aux malades et à leurs familles. Un accompagnement qui commence avec les tests gratuits de détection du virus. Un centre de tests existe donc à présent à l'entrée de La Marais. Et c'est Eduardo qui organise la file en donnant à chacun un dépliant.
À l'intérieur, vous avez notre téléphone. Si vous êtes positif au test, entrez en contact avec nous pour obtenir une aide sociale et pour recevoir du matériel d'hygiène et des repas si vous ou votre famille en avez besoin.
Dans la file, Eduardo, qui est du quartier, reconnaît Carlos, un agent de sécurité, qui lui explique pourquoi il vient se faire tester ce matin.
J'ai été en contact avec deux cas positifs et l'un vient de mourir.
Quel âge ?
42 ans.
Tellement de gens meurent, si tu savais. Les gens ne savent pas de quoi ils meurent, mais nous qui travaillons ici, nous savons que c'est le Covid. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on invente.
Le deuxième pilier de ce projet est donc la communication. Il a fallu faire face à une déferlante de fake news sur le Covid pour que les gens prennent au sérieux le virus. Dans la rue, Eduardo distribue des prospectus et rappelle les gestes qui sauvent, à commencer par le port du masque.
Bonjour, où est ton masque ? Bonjour. Bonjour, félicitations pour avoir le masque, madame. Les gens ont plein de prétextes pour ne pas utiliser de masque. Que le virus n'existe pas, qu'on invente les morts, que c'est pour faire tomber Bolsonaro.
Ces croyances bien implantées ne sont pas là par hasard, selon Fernando Bosso. Il est chercheur au Centre de recherche médicale de la Fiocruz et partenaire de ce projet. Il s'agit même, selon lui, d'une stratégie bien pensée.
Le Brésil aujourd'hui est devenu quasiment une usine à fake news. Ce sont des informations créées pour désinformer la population. Nous avons vu énormément d'informations fausses circuler sur le virus, sur les formes de transmission, sur le traitement. Le gouvernement lui-même a créé ces fausses informations et cela provoque une énorme confusion dans la population.
Malgré ces difficultés, le projet a obtenu d'excellents résultats grâce à ses trois piliers, tester, isoler et communiquer.
Avant l'implantation de ce programme, la mortalité ici, dans la Marée, était deux fois plus importante que dans la ville de Rio, qui était déjà une des pires mortalités du Brésil. Et après la mise en place du projet, nous avons obtenu une réduction de la mortalité de plus de 85%.
Implanté depuis un an, le projet ne concerne que deux complexes de favelas de Rio de Janeiro. Il pourrait pourtant être un modèle à suivre dans tous les quartiers pauvres de l'Amérique latine.
Anne Vignat pour le reportage. Merci beaucoup Anne. À très vite, bien sûr. Le bruit du monde. La suite, c'est toute l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Anaïs Vega. Et nous sommes, Anaïs, dans le centre de Cuba. La petite ville s'appelle Placetas.
Oui, on est au pied de l'église. Alors, pas vraiment la plus jolie église cubaine. On est dans cette paroisse avec quatre prêtres français de la communauté Saint-Martin. Ils sont en soutane blanche. Il faut dire qu'à Cuba, communisme et religion ne font pas bon ménage. Avec la révolution de Fidel Castro en 1961, toutes les œuvres sociales de l'église ont été confisquées par l'État. Fini les écoles catholiques, les dispensaires. L'athéisme devient la règle. Le diacre de l'église, d'ailleurs, s'en souvient. Il a aujourd'hui 70 ans. José raconte, le gouvernement exerçait une forte pression pour vider les églises, non pas parce qu'elles étaient des églises, mais parce qu'il s'agissait d'une organisation bien structurée à Cuba et qui leur résistait. Aujourd'hui, le ton a changé. Cuba est toujours sous embargo américain et la pandémie de Covid-19 a privé l'île de touristes. Résultat, c'est la pire crise économique depuis 30 ans. Énorme pénurie de vivres et de médicaments. Alors à Placetas, les prêtres ne provoquent plus la méfiance, comme le raconte l'un d'entre eux, Jean Pichon. À Cuba, l'église met un pied dans la porte, comme on dit, pour la garder ouverte. L'idée n'est pas de faire du prosélytisme, de rechercher la notoriété, mais d'aider réellement. Quand nous pouvons aider, nous aidons. La paroisse a mis en place 5 services de soupe populaire, 3 garderies, un foyer pour personnes âgées. Une petite pharmacie gratuite est alimentée par les dons et les médicaments rapportés de France. Comme institution, l'église a joué un rôle décisif dans la libération des dissidents en 2010. Et aujourd'hui, les prêtres ont une parole plus libre que la population. Ils n'hésitent pas à alerter sur la situation économique dramatique.
Anaïs, Israël et la Pologne sont en froid diplomatique.
Ambassadeurs respectifs convoqués. Tweet de l'ambassade israélienne assez sévère et les mots durs du ministère polonais des Affaires étrangères. Ce qui crispe les relations, c'est une loi jugée immorale par Israël qui risque de compliquer la restitution des biens juifs spoliés pendant la guerre. Ce que critique l'Organisation mondiale pour la restitution des propriétés des juifs basées à Tel Aviv. Colette Avital en est la secrétaire générale.
Vous savez qu'avant la guerre, quelques 3,5 millions de Juifs vivaient en Pologne. Ils avaient des propriétés. 90% ont été tués dans la Shoah. Il en restait 10%. Et donc, leurs propriétés, c'est vrai, ont été d'ailleurs saisies par les nazis. Mais par la suite, elles ont été prises, saisies et nationalisées par le gouvernement communiste polonais.
Après la chute du communisme en 1989, des restitutions ont été possibles, mais avec des procédures souvent longues et chaotiques. La Pologne explique que cette loi ne vise personne, mais que le tribunal constitutionnel impose une date limite pour toute contestation d'une décision administrative. Alors le texte n'est pas encore adopté définitivement, et d'ici là, sans doute que juristes et diplomates ont encore du pain sur la planche.
Et partout en Chine, qui vient de remporter une sacrée bataille après 70 ans de lutte.
Hein. Oui, la bataille contre le paludisme dans les années 40, comme ici dans ce dispensaire. Cette maladie faisait des ravages dans l'Empire du Milieu. 30 millions de cas par an. On rappelle que c'est une maladie mortelle, transmise par certains moustiques, les anopheles. Eh bien, la Chine vient de l'éradiquer. Le directeur général de l'OMS se félicite qu'elle rejoigne les pays toujours plus nombreux qui montrent qu'un futur sans paludisme est possible. L'OMS qui publie dans cette vidéo le témoignage d'une députée chinoise. Elle explique que sans l'effort considérable de chaque habitant de ce pays, on n'aurait pas réussi à éliminer la malaria et c'est sa plus grande fierté. La Chine a dû attendre 4 ans sans contamination locale pour demander sa certification. Vérification sur place des experts de l'OMS pour s'assurer que tout est aussi prévu pour éviter une réémergence, car le paludisme est présent chez les voisins, Laos, Birmanie, Vietnam. La Chine est le premier pays de cette région du Pacifique occidental à recevoir cette certification en 30 ans. La malaria a encore fait plus de 400 000 morts en 2019, essentiellement en Afrique. Mais fin avril, l'université d'Oxford a annoncé que son candidat vaccin était efficace à 77%. Il pourrait être approuvé dans les 2 ans.
Voilà, comme quoi un vaccin peut en cacher un autre. Merci beaucoup. Anaïs, à demain, bien sûr. Même heure, même endroit. Je vous laisse avec une valeur très très sûre. Pastime Paradise et Patti Smith, c'est sur France Inter. Paradise et Patti Smith sur France Inter. Mais c'est du Stevie Wonder, a dit Jean-Marc Four un instant. Et c'est vrai, en vrai, c'est du Stevie Wonder. Et Corinne Pellissier était d'accord. D'ailleurs, la voilà.
France Inter. Un jour dans le monde.
So began the legend of Peter, the boy who would not grow up.
L'homme qui ne grandit pas, le cinéma en VO, avec justement l'un des personnages les plus cultes de l'univers des contes, Corinne, Peter Pan, donc le nouveau film de Ben Zeitine, révélé par Sundance en 2012 avec les Bêtes du Sud Sauvage dans le bayou de Louisiane. Et c'est ici même, 8 ans plus tard, qu'il a choisi de situer à nouveau l'action de ce deuxième film, donc autour du personnage de Peter Pan. Attention, pas grand chose à voir avec la version Disney qu'on connaît un peu, ni avec d'ailleurs les dizaines d'adaptations qui ont eu lieu derrière, ni au théâtre, ni en bande dessinée. Tout ça, c'est très unique en fait.
Exactement, il en a fait une fable écolo, sans les pirates, sans clochettes, avec un Peter Pan pas très sympa et capricieux, mais un personnage central, Wendy, que l'on va suivre dans une grande aventure, très réaliste, au pays des rêves avec des comédiens non professionnels. Alors toute l'histoire se déroule de son point de vue. Le film d'ailleurs porte son nom, Wendy. C'est le quotidien pas très funky d'une petite fille dans le restaurant de sa mère où elle pressent déjà que le monde des adultes n'aura pas grand-chose d'excitant à lui offrir. Et une nuit, pour conjurer sort, elle va sauter dans un train pour un voyage plein d'aventures, parfois douloureux, et qui nous invite à nous reconnecter à la nature.
Tell her I miss her and I love her. Beware, children. You can leave yourself behind. You won't even know when it happened. All children grow up. But some, the wild ones, the ones with the light in their eye, escape.
Apparemment, elle ne vole pas, mais elle prend le train. Wendy. Il y a évidemment le thème de l'enfance qui est là, le thème de la capacité à s'émerveiller, associé en général au personnage donc de Peter Pan. Ça, c'est plutôt conforme, joué ici par un petit garçon noir avec des dreadlocks. Le grand sujet du film, Corinne, néanmoins, c'est l'appel à plus d'harmonie avec la nature, avec l'univers qui nous entoure. Ben Zeitin, en fait, son Peter Pan, un vrai film militant. En fait.
Voilà, des personnages, des paysages sublimes, loin de tout, loin des maisons, loin du tumulte de nos sociétés capitalistes. Pour Ben Zeitin, oui, c'est un film engagé, comme l'étaient à sa manière déjà Les Bêtes du Sud Sauvage, le refus de grandir dans un univers qui ne respecterait pas la nature.
Le plus effrayant en grandissant, c'est ne pas de vieillir, c'est de regarder les adultes s'éloigner tous les jours un peu plus de leur rêve d'enfant. C'est pour ça que j'ai voulu revisiter l'histoire de Wendy et Peter Pan. Comme une réponse. Pour moi, ce sont la joie, la connexion aux autres et l'amour qui nous maintiennent jeunes et dynamiques. Et le personnage de Wendy l'a bien intégré. Elle continue de s'amuser, d'être libre, de n'avoir peur de rien, mais connaît la fragilité des choses. Tous les enfants, vous savez, se sentent proches de la planète et des animaux. Ils forment ensemble comme un tout. Et c'est ce lien qui m'intéressait dans le film. Comment rester connecté à la nature et à tous ces éléments qu'on ne remettait jamais en doute quand on était enfant.
Voilà, Corinne, c'est l'occasion de bien démarrer à partir d'aujourd'hui et pour une semaine, donc cette fête du cinéma. 4 € la place.
Mais oui, prix d'amis.
Exactement, ça s'appelle Wendy, signé de l'américain Ben Zeitin. Et la semaine prochaine, Corinne, on vous retrouve pareil comme d'habitude, mais en direct du Festival de Cannes. Toujours plus de cinéma en VO, vous serez là en direct de Cannes mercredi prochain, le mercredi suivant aussi. Et pour ça, on vous remercie. Allez, à tout à l'heure. Non, pas à tout à l'heure, à la semaine prochaine.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le Monde d'après, signé Jean Marfour. Jean-Marc, en Éthiopie, les rebelles de la région du Tigré ont lancé une contre-offensive et ont repris les principales villes du nord du pays. Au bout de 8 mois de conflit, l'Éthiopie est réellement menacée de dislocation. Et pour vous, ce qui se passe là-bas doit nous alerter d'urgence, y compris sur nos propres erreurs. Et c'est votre Monde d'après.
Ouais, c'est tentant de regarder la guerre civile dans ce pays d'Afrique de l'Est d'un œil distrait sur le mode c'est localisé, puis c'est loin de chez nous. En réalité, cet engrenage de violence qui va de mal en pis met en lumière plusieurs faits qui nous concernent directement. Premier point, on s'est planté, la communauté internationale, les Occidentaux, on s'est planté. C'est pas une première, mais là, c'est flagrant. On a misé sur le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, jeune, à peine plus de 40 ans, charismatique, moderne. Il est apparu il y a 3 ans comme l'homme qui allait restaurer l'unité de ce pays, pays divisé mais somptueux, et qui a toujours résisté à la colonisation. En 2019, Ahmed s'est retrouvé auréolé du prix Nobel de la paix. 2 ans plus tard, il faut se rendre à l'évidence, Abiy Ahmed est devenu un chef de guerre. Il a basculé dans le messianisme, sa conversion au pentecôtisme n'y est sans doute pas pour rien. Il privilégie l'ethnie des Amara, la deuxième du pays, ancien soutien de l'ex-empire dictatorial de Selassie. Il s'est associé à l'ancien rival du Nord, la très autoritaire Érythrée, pour mieux réprimer la rébellion sécessionniste du Tigré, cette région située à la frontière entre les deux pays. Et depuis 8 mois, il ferme les yeux sur les massacres et ce qui ressemble quand même à une épuration ethnique. Donc oui, on s'est bien planté.
Et du coup, on se retrouve impuissant.
Oui, et plus inquiétant encore, les humanitaires sont impuissants. C'est le deuxième fait majeur qui doit nous alerter. En Éthiopie, les ONG sont prises pour cible délibérément. C'est d'ailleurs une évolution que l'on sent venir ces dernières années sur plusieurs terrains de conflit, par exemple récemment au Niger. Et là, ça saute aux yeux. Jeudi dernier, 3 membres de Médecins Sans Frontières sont morts au Tigré, visés volontairement. MSF dénonce un assassinat brutal. Les 2 parties en conflit se renvoient la responsabilité du drame. Alors l'ONU peut bien dénoncer une violation du droit international humanitaire. Le résultat est là. Les humanitaires ne peuvent plus travailler. C'est trop dangereux. Beaucoup cherchent donc à quitter la zone. alors même que les habitants de la région ont cruellement besoin de leur soutien. 350 000 personnes souffrent déjà de famine, des centaines de milliers d'enfants sont menacés, 90% de la population dépend de l'aide alimentaire, 90%, et les civils continuent de fuir devant les assassinats, les pillages, les viols. Ajoutons que les humanitaires ne sont pas les seuls à être poussés vers la sortie. Et les journalistes sont évidemment persona non grata dans toute la région. Les télécommunications, tout comme Internet, sont régulièrement coupées. C'est plus sûr si on veut commettre des exactions à huis clos.
Et alors, cela dit, Jean-Marc, ça demeure quand même un conflit localisé.
Oui, c'est vrai, mais la question, c'est jusqu'à quand? Officiellement, un cessez-le-feu a été proclamé par le pouvoir éthiopien, mais le Premier ministre Abiy Ahmed attend sans doute les résultats des récentes élections législatives, qui évidemment n'ont pas pu se tenir dans le Tigré, pour restaurer sa propre légitimité et peut-être repartir à l'offensive. Et en face, les rebelles, eux, peuvent se sentir grisés par leur victoire récente et vouloir attaquer, soit vers l'Érythrée au nord, soit vers la capitale éthiopienne, Addis Abeba, au sud. En tout état de cause, les velléités de sécession du Tigré prennent corps et cette idée de la dislocation de l'Éthiopie n'est plus vraiment un fantasme. C'est là que ça peut entraîner des effets en chaîne. L'Éthiopie, c'est un géant, c'est le deuxième pays d'Afrique par la population. Autrement dit, ça veut dire que tout le continent regarde. Et puis surtout, l'Éthiopie est au cœur d'une zone instable. À l'est, il y a la Somalie, confrontée aux chebabs islamistes. À l'ouest, il y a le Soudan, qui voit débarquer par dizaines de milliers des réfugiés du Tigré, précisément, alors qu'ils croulent déjà sous la pauvreté. Au nord, on en parlait, le régime militarisé et kafkaïen de l'Érythrée. Sans oublier le Yémen, alors c'est de l'autre côté du golfe d'Aden, d'accord, mais c'est tout proche en fait à vol d'oiseau. Et puis l'Égypte vent debout contre la volonté du pouvoir éthiopien de faire démarrer cet été, vous savez, ce gigantesque barrage qui va limiter en aval le débit du fleuve Nil. C'est une poudrière avec des mèches allumées dans tous les coins. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait se réunir après-demain sur le sujet. Il faut souhaiter qu'il ait des idées pour apaiser les esprits.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après. Merci Jean-Marc. Bien sûr, à demain. Le 18-20 de France Inter, ça continue avec le journal de Sébastien Paour. Avec le téléphone sonne aussi. Merci beaucoup de passer cette soirée avec nous. Ne changez rien et à tout de suite.